C'est la 11e édition du Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras. Une manifestation organisée par l'association Colère du Présent et qui a lieu, comme chaque année, le 1er mai. Que nous réserve cette nouvelle édition? Quelles en seront les thématiques principales? François Hanic, coordinateur du Salon, nous explique tout ce qu'il faut savoir sur cet événement.
Alors on a un double changement cette année sur le Salon d'Arras, d'expression populaire et de critique sociale. Un premier changement qui est un changement d'implantation, puisqu'on n'est plus dans le musée des Beaux-Arts où se trouvent les carrosses de Versailles. Les auteurs de critique sociale n'avaient pas bonne presse à côté des carrosses de Versailles, mais on est sur la place de la Vacquerie qui se trouve derrière l'hôtel de ville. Un salon qui se développe de la place de la Vacquerie jusqu'à la place du Théâtre, qui est un lieu où traditionnellement on propose un espace pour les associations d'environnement, solidarité, les syndicats, tous ceux qui ont quelque chose à dire de notre société. Bon, ça a été un lourd travail de remettre en place ce salon sur cette organisation-là, mais finalement ça donne aussi une continuité urbaine, je dirais, entre les différents éléments du salon, qui peut être intéressante. Et donc, sur la place de la Vacquerie, on retrouve les auteurs, littérature générale, éditeurs, et également, autre nouveauté, un énorme chapiteau de 200 mètres carrés.
Le thème général donc, qui sera exploité ce 1er mai, c'est surtout un thème qui tourne autour du pouvoir et de la corruption entre réalité et fiction.
En fait, depuis l'année passée, on a décidé de thématiser un peu la critique sociale, l'expression populaire, enfin en tout cas la littérature que nous on veut mettre en avant, cette littérature impliquée dans la vie de la cité, qui donne une réflexion, une interrogation sur la société qui nous entoure, d'un point de vue théorique, comme les essais, mais aussi d'un point de vue esthétique et émotionnel, comme peut l'être le roman, également la poésie, ou la bande dessinée. Donc cette initiative qu'on a prise l'année passée s'est concentrée sur la littérature d'expression populaire et de critique sociale de Belgique. Et cette année, on a voulu développer un peu ce mouvement en essayant de réfléchir à l'expression populaire, la critique sociale aujourd'hui, comment on pourrait la décliner sous quelques thèmes. Donc il y a effectivement un grand thème lié à l'actualité littéraire qui est pouvoir et corruption. J'ai bien dit actualité littéraire. Mais bon, ça a forcément des liens aussi avec d'autres actualités sur d'autres domaines. Les autres sujets étant les écritures insurgées. L'association qui porte le salon, c'est Colère du Présent. Il n'y a rien de pire que les colères rentrées. Et nous avons énormément d'auteurs qui ont des colères à exprimer, des colères à faire entendre, et que nous, on avait envie de partager avec eux. Et d'autres thématiques abordées sont la politique et le social comme matière littéraire. Et enfin, les regards singuliers sur nos sociétés contemporaines. Ce sont des auteurs qui ne sont pas forcément, ou en tout cas de premier abord, ne sont pas forcément en colère, n'ont pas forcément une analyse de la société, mais ont un point de vue sur le monde assez original et qui peut entrer en écho avec ce que nous défendons.
Sur le polylittérature, alors quel genre d'auteurs on pourra donc rencontrer? Quelles sont les nouveautés peut-être apportées à ce pôle?
Alors déjà, on peut dire aussi que sur ce pôle, on a voulu vraiment remettre l'accent sur le débat, la discussion. Donc ce sont des débats, des discussions, des rencontres avec des auteurs, avec des éditeurs. Le 28 avril, Matt Conture, qui est un auteur de bande dessinée, qui sera à la médiathèque d'Arras. Gérard Streff, à la médiathèque de Saint-Laurent-Blangy. Aïdé Saberan, à la médiathèque Verlaine. Des auteurs italiens qui viennent à la librairie VO à Lille. Voilà, on essaie vraiment de développer les rencontres, les débats, les discussions. Et donc, sur ces thématiques, et notamment sur pouvoir et corruption, on a un grand temps de réflexion le 30 avril et de discussion. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse partager la parole, la réflexion sur cette thématique. Pouvoir et corruption entre réalité et fiction, notamment autour de quelques auteurs phares de cette période, à la fois en littérature et en politique, comme Roberto Scarpinato, qui est un juge italien anti-mafia, qui a vécu 30 ans sous protection rapprochée, parce que dans sa lutte contre la mafia, qui maintenant a une tournure internationale, en tout cas européenne, voilà, il met sa vie en danger tous les jours. Et il vient à Arras pour présenter un livre qui sort aux éditions La Contralée, une maison d'édition lilloise. Ça sera l'occasion justement de revenir sur son parcours, hein, sur sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et sur la mafia, qui n'est pas que italienne, mais qui est bien au-delà, européenne, voire, ce qu'il dit lui-même, liée directement au système démocratique. Et en face de lui, on a voulu mettre aussi des auteurs qui parlent de la même chose, mais sous le roman, comme Francesco De Filippo, qui a sorti Le Soupçon, qui est un roman justement chez Métellier. Voilà, essayer de parler des mêmes sujets sous différentes approches, avec des auteurs qui viennent un peu partout, puisqu'on a des auteurs du Maroc, d'Algérie, d'Italie, d'Espagne. Essayer d'ouvrir l'expression populaire, la critique sociale, à différentes thématiques et à différents pays.
Alors tu parlais donc du juge anti-mafia. Est-ce qu'il y aura un service de sécurité spécial lors de sa venue?
Alors il est déjà venu à Lille, il était à Lille en novembre pour une rencontre autour de Cité Philo, un festival de philosophie sur Lille. Nous on l'accueille sur le même dispositif, donc effectivement il est protégé. On est en lien avec la préfecture là-dessus, donc il n'y a aucun problème pour le public, il est sous protection.
Autre pôle également, c'est le pôle BD et dessin de presse. Est-ce que tu peux nous résumer en gros ce qui nous attend et est-ce qu'il y a aussi là, de ce côté, des nouveautés ?
Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. C'est que chaque année, on a des auteurs de BD qui viennent, effectivement. On a eu François Bouc, Cabu, on a eu Tardy, on a eu Margerin, on a eu voilà, des noms comme ça, Petit Luc, des auteurs qui sont assez, qui sont très connus, qui ont généré aussi des intérêts du public. Mais on s'est dit, on peut continuer à avoir un ou deux auteurs importants, ou même dix, mais on est sur un salon de critique sociale, d'expression populaire. On est sur de l'édition indépendante, donc comment essayer de donner aussi une cohérence à l'ensemble de cette manifestation, y compris en bande dessinée. Alors avec Cap Nord, donc la librairie BD d'Arras, on a réfléchi à tout ça, et on propose cette année un plateau où effectivement on retrouve Charb, mais on retrouve aussi des auteurs underground, américains, anglais, des auteurs de comics, comme Terry Moore, comme Brian Talbot. On retrouve aussi beaucoup d'auteurs qui ont publié des documentaires fiction en BD, ou alors des biographies ou des documentaires tout court en BD, comme Manan Yastani, qui revient sur sa vie journaliste iranien. Matt Contour, qui est l'un des fondateurs de l'association, une maison d'édition, qui est quand même la plus grosse maison d'édition indépendante de BD en France. Et donc Matt Contour vient avec d'autres de cette maison, Mathias Picard par exemple, Olivier Josseau, Grégoire Carlet. Voilà, on a essayé vraiment de proposer quelque chose de cohérent aussi sur l'espace BD, qui soit également international.
Ouais, d'ailleurs, Mana Neyestani, c'est un peu particulier, hein, parce qu'il a quand même vécu quelque chose d'assez plutôt, on va dire, torturé, hein, c'est le cas de le dire, puisque il a été censuré dans son pays, évidemment. Il a été, mais il est encore d'ailleurs interdit de séjour en Iran.
Oui, voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a été torturé et emprisonné injustement pour une mauvaise interprétation de la part des autorités d'un dessin pour enfants. Et sur cette base-là, on l'a torturé, on l'a emprisonné. Il a réussi à s'enfuir, il s'est retrouvé en Malaisie, où il a, cette fois-ci, il a attaqué le gouvernement iranien dans sa réalité, pendant les élections, etc. Donc il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Effectivement, et en Malaisie il a commencé à pu non plus être accepté, etc. Et donc là en ce moment il vit à Paris, donc c'est quelqu'un justement qui pour ses opinions a été attaqué au départ injustement, mais qui maintenant pris position, et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu l'inviter, c'est aussi pour ça qu'on veut le soutenir.
Autre chose, le pôle jeunesse, qui est plutôt lié à la littérature jeunesse, lui reste toujours à l'hôtel de Guines. Donc pas de changement, par contre peut-être qu'à l'intérieur il y aura quelque chose de nouveau, des spectacles surtout. Ouais.
Beaucoup de spectacles. Alors c'est vrai que le pôle jeunesse c'est vraiment un monde à part. On y entre, on trouve des livres autrement. Cette année il y a Rue du Monde qui propose à la fois ses éditions, mais aussi une exposition sur les droits d'enfant. Des auteurs qui sont vraiment liés à la littérature de jeunesse, comme Mako, comme Pef, comme Zahu. Et puis cette année, il y a vraiment un espace spécifique, comme tu disais, qui est un coin jeunesse. L'idée, c'est que c'est une sorte de laboratoire. Comment être sur un salon du livre autrement. Et l'ado, c'est celui aussi qui veut être dans son espace, un peu chez lui, quoi, avec ses livres. Et donc, du coup, c'est une sorte de salon spécifique pour les adolescents, avec aussi un mobilier spécifique. Donc, voilà, c'est une approche peut-être plus confortable aussi de la littérature.
Le Salon du Livre, c'est le 1er mai, mais c'est aussi un peu avant et un peu après, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, le vendredi 27 avril, il y aura, comme chaque année, le 8e prix Jean Millamecker qui sera remis à un auteur. Alors, quels sont les auteurs en compétition cette année ?
Alors, en compétition 2012, cette année, on a Olivier Brune pour La Nuit du Chien, aux éditions Actes Sud. On a Shuman Asina, Assommons les pauvres, aux éditions L'Olivier. Également aux éditions L'Olivier, Jean-Paul Dubois pour le Cas Snyder. Antonin Varenne pour Le Mur, Le Kabyle et Le Marin, édition Viviane Ami. Marin Ledin, Les Visages écrasés au seuil. Et cette année, comme le choix était un peu difficile, on a pris un sixième, Vincent Wackenheim, La Gueule de l'Emploi, édition Le Dilettante. Et donc cette année, on a la remise du prix à Millamecker se fera le 27 avril, donc un peu avant le salon, à l'hôtel de Guines. La remise du prix par le président du conseil général à 17h. Avec une lecture de Rizlan El Cohen accompagnée d'un violoncelle de Timothée Couteau et une performance. Donc, ce sera une lecture un peu longue d'une heure, mais qui permettra de découvrir aussi un artiste en performance. Donc, Pinelli, celui qui a fait l'affiche, fera un dessin en direct en même temps. Donc, ça va être vraiment une formule à trois qui va être assez marrante.
Le dimanche 29 avril, et un peu jusqu'au 17 juin, tu vas nous expliquer comment ça va se passer. Eh ben, ce sera d'Arras au Havre, le polar au fil de l'eau. Et donc, il y aura des choses qui se passeront sur une péniche.
Oui, alors c'est le fruit d'une rencontre, comme on en fait beaucoup dans les salons du livre d'ici et d'ailleurs. Une rencontre avec Dominique Delahaye, avec Les Habits Noirs aussi, de Jean-Bernard Pouy, Stéphanie Delestret, Carrie Ferret, etc. Tout ça, c'est une bande de potes qui se retrouvent au Havre, lors du Salon du Livre du Havre, qui a lieu en juin chaque année, qui s'appelle Un Polar à la plage. Et il se trouve que l'organisateur, Dominique Delahaye, est également auteur, il est également guitariste et marinier. Il a une péniche. Et donc, il a décidé de venir ici sur Arras, je pense qu'il arrive vers le 27 avril, en péniche. Et avec sa péniche, il vient avec des artistes, avec des écrivains, et puis avec son groupe de rock, Polaroid Rock. Parce que, en fait, dans ce salon, il y a une spécificité, c'est qu'il demande à chaque auteur d'écrire une chanson polar. Et donc, le groupe Polaroid Rock reprend ses chansons polar. En version rock forcément. Et donc du coup nous on s'est dit mais c'est l'occasion aussi de valoriser ce lien d'une autre manière puisque donc le 29 avril il y a toute une série d'actions culturelles sur lesquelles je vais revenir et ensuite la péniche après le 2 mai part jusqu'au Havre et s'arrête dans plein de lieux différents, une dizaine de lieux en Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, en Île-de-France, en Picardie. Et ça c'est formidable parce que du coup ça nourrit aussi, ça permet de faire rencontrer des publics différents dans les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, tous les lieux qui souhaitent valoriser ce livre un peu partout au fil de l'eau du coup. Et donc le 29 avril on les découvre par PK355 qui est un spectacle déambulatoire qui est en même temps une lecture et puis une performance. Donc c'est départ à 16h à Arras, place de l'ancien rivage, pour arriver ensuite à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy, devant la péniche, où aura lieu à 18h30 un concert donc de Polaroid Rock, qui est un apéro-concert qui va mettre en appétit pour la suite du salon. Cette année, on a vraiment voulu développer des rencontres aussi en amont, comme j'expliquais, et c'est, en fait, ça a commencé avec des temps qui sont peut-être pas dans le programme, mais qui sont tout aussi importants que ce qui est dans le programme. C'est des rencontres entre des petits groupes dans les centres sociaux et des auteurs. On a eu comme ça une rencontre le 3 avril, qui n'apparaît pas dans le programme, avec Vincent Di Martino et puis des jeunes qui sont suivis par un centre social à Roubaix, sur Roubaix, parce que Vincent Di Martino est un ancien ouvrier des lainières de Roubaix, et donc il revient sur cette histoire, et ces jeunes sont souvent des enfants des ouvriers de Roubaix. Et donc il y a eu comme ça une très belle rencontre entre l'écrivain et ces jeunes qui ont perdu une partie de cette histoire, mais qui ont retrouvé aussi l'histoire de leurs parents à travers cet auteur et qui ont pu voir que justement de ce passé difficile parfois à assumer, surtout quand le parent a trouvé le chômage ou des difficultés de vie, on peut en faire un livre, on peut le valoriser et en plus on est accueilli ensuite sur le Salon du Livre d'Arras. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a essayé de développer et qu'on essaie de développer pour les années suivantes.
Comme tous les ans, donc dans le Salon du Livre, il y a une soirée d'ouverture et une soirée de clôture. Donc on peut peut-être faire le lien entre les deux, puisqu'ils seront tous les deux animés par les Tréteaux de France.
Oui, alors c'est un travail de longue haleine aussi, cette histoire avec les Tréteaux de France. C'est un travail qui nous accompagne et qui accompagne notamment Ricardo Montserrat dans son parcours avec Robin Renucci. Robin Renucci, c'est un comédien qu'on connaît notamment pour Un village français, qu'on connaît aussi en tant qu'acteur sur les planches, qui vient régulièrement aussi au théâtre d'Arras. Et c'est lui donc que le ministre a choisi pour diriger les Tréteaux de France, le ministre de la Culture. Et donc à cette mission, il a voulu redonner une impulsion qui est... alors les Tréteaux de France, c'est spécifique, hein, c'est un centre dramatique national toujours en déplacement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de mobile. Et lui, il a voulu donner une impulsion nouvelle qui est une co-création. C'est-à-dire qu'il y a un espace à chaque fois, quand il se place quelque part, pour les gens localement, pour s'impliquer avec des acteurs amateurs ou des apprentis acteurs, on va dire. Et donc cette année, on a voulu mettre l'accent sur ce travail avec les Tréteaux de France par une soirée d'ouverture et une soirée de clôture. La soirée d'ouverture, c'est une création pour l'occasion qui s'appelle Les Indicibles. C'est un travail d'écriture avec les étudiants de la FERTES, l'école éducateur d'Arras, et avec les élèves du conservatoire d'Arras d'art dramatique. Donc ce sont eux qui vont porter sur les planches les textes écrits par les éducateurs. Et donc ce sont des parcours de vie comme peuvent les croiser ces éducateurs eux-mêmes pour leur propre vie qui sont parfois très difficiles, mais aussi par les jeunes qu'ils croisent eux-mêmes ou qu'ils accompagnent. Ça c'est donc le principe, donc ça s'appelle Les Indicibles, mais c'est vraiment le principe du faire ensemble qui est vraiment au cœur du projet des Tréteaux de France. Et Robin Renucci propose également le 1er mai un stage de lecture à voix haute le matin qui est vraiment un cadeau de sa part, donc de 10h à midi. C'est un stage de lecture où on va apprendre à lire un texte, mais pas le lire juste en mettant du ton ou du son, mais vraiment en essayant de le ressentir comme une musique en fait. Donc il y a vraiment un travail comme ça qui est très fort, qui est très intéressant. Et en clôture, c'est aussi Robin Renucci qui fera la lecture d'un texte, L'histoire du soldat, qui est un texte de Charles Ferdinand Ramuse et qui a été mis en musique par Stravinsky. Et cette partition de Stravinsky est jouée par les professeurs du Conservatoire d'Arras. Donc vraiment un travail comme ça de maillage, de rencontre entre les mondes du livre, de la musique, entre différentes structures. Et donc pour nous, c'était vraiment très bien d'accompagner ce mouvement.
Alors le 30 avril, il y aura également une projection d'un film, d'un documentaire plus précisément de Sabina Guzzani, Dracula, l'Italie qui tremble.
Oui, alors l'Italie qui tremble, en fait, ça vient clore la journée du 30 avril, l'après-midi du 30 avril qui commence par un débat sur pouvoir et corruption entre réalité et fiction. Donc vraiment un focus mis sur cette thématique avec donc le juge antimafia italien Roberto Scarpinato, des romanciers, avec Flore Vasseur qui va animer le débat, qui est la lauréate du prix Amelia Mecker 2011, avec Alphonse Cervera qui est l'un des plus grands romanciers espagnols contemporains. Donc sur cette thématique pouvoir et corruption, Plan Séquence et le Cinéma Vida, qui sont nos partenaires sur cette soirée, ont proposé un documentaire, Dracula, qui est un documentaire vraiment frappant autour de Aquila, qui est une ville italienne qui a été ravagée par un séisme et qui a subi un deuxième outrage, je dirais, c'est-à-dire que les terrains des habitants ont été récupérés par les entreprises de construction du BTP italien, soutenu par la mafia, avec l'accord des politiques et avec les yeux fermés des journalistes. Et ce qui fait qu'il y a eu une sorte de récupération de ce terrain pour en faire vraiment un objet de ressources et de profit, au détriment même des gens. Et on se souvient de Berlusconi qui avait vanté les mérites du camping à ce moment-là. Voilà, on voit très bien l'ironie du propos. l'ironie aussi de ces politiques. Et donc, ça avait tout à fait sa place dans cet après-midi.
Et puis, évidemment, la nouveauté également cette année, c'est que PFM aura un plateau livre et sans pub où on recevra des invités, des auteurs, où il y aura de la musique et ce sera assez convivial d'ailleurs. La série Nouré Norbert, écrite en collaboration avec Ricardo Montserrat, auteur, et les étudiants de la FERTES, qui est une association pour la formation, l'éducation et la recherche en travail éducatif et social, sera également présente sur cette 11e édition. François revient sur l'aventure de cette fiction créée en atelier d'écriture et nous dévoile comment elle sera mise en valeur.
Nouré Norbert, c'est une belle aventure qui a commencé l'année passée au Salon du Livre aussi, en avril, avec Béthune, capitale régionale de la culture. En fait, c'est une série de polars qui sur le même principe que le Poulpe, c'est-à-dire que c'est écrit en atelier d'écriture avec des collectifs qui changent à chaque livre. Donc le collectif change, ce sont les personnages qui restent, ce qui est plutôt, plutôt rare. Donc Nouré Norbert, Nouré est une descendante de travailleurs marocains. Et Norbert, lui, est descendant de travailleurs polonais, tous les deux donc dans le bassin minier. Donc c'est en même temps l'histoire du bassin minier qu'on redécouvre par le roman. Et c'est une aventure qui est belle à plusieurs titres. Déjà parce que ces collectifs d'écriture se sont mis en route pour sortir ces polars qui fonctionnent plutôt pas mal. Avec en plus un éditeur parisien qui a saisi ce travail en voulant le valoriser, les éditions Baleine. Autre lien avec le Poulpe, puisque c'est l'éditeur du Poulpe, et avec une aventure qui est accompagnée à différentes échelles. Bon, par exemple, à la fête de l'UMA, il y a eu un débat avec les mineurs marocains qui sont ici dans l'association des mineurs marocains du Nord. Ils ont voulu mettre en valeur justement ce travail, avec Ricardo Montserrat, qui en ce moment est au Maroc, parce que justement les mineurs marocains, pour partie, sont repartis au Maroc, et il est allé faire un atelier d'écriture là-bas. Pour continuer l'aventure Nouré Norbert au Maroc. Donc voilà, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment intéressantes, avec les syndicalistes aussi de l'union locale CGT du Béthunois, avec des gens du Secours Populaire, avec le phare de Béthune. On a comme ça une approche vraiment multiple d'une histoire qui en plus est romancée. Et là, pour le coup, on propose de 10h à 16h la lecture musicale de ces romans. Donc il y en a 4. Et à chaque fois, lu par Franck Van de Castel, donc le chanteur des Marcelles, et son orchestre, Rizlen El Cohen, qui est une actrice, et un accompagnement par Timothée Couteau au violoncelle. Voilà, donc un dispositif vraiment, vraiment original, intéressant, et qui va déboucher sur un débat à 16h. Donc il y a une lecture de 3/4 d'heure du dernier numéro de Nouré Norbert, suivi d'un débat avec le CMCAS sur la question des agents EDF-GDF qui refusent de couper les compteurs. Pour les personnes les plus en difficulté et donc qui sont en procès. Donc on va parler de cette histoire là parce que justement c'est lié aussi à ces romans. On essaie par les romans de parler de cette société justement qui va mal, mais aussi de ces populations qu'on a oubliées dans le bassin minier, qu'on écrase doublement symboliquement, une fois en classant un bassin minier à l'UNESCO, en racontant une belle histoire du bassin minier qui n'est pas forcément celle que les gens ont vécue, et une autre fois en essayant d'y implanter un Louvre qui vient rajouter une identité qui n'est pas la leur, qui n'est pas l'identité des gens qui habitent dans le bassin minier, et donc en essayant de leur redonner une place quelque part dans tout ça.
Si vous désirez plus d'infos sur la programmation complète de cette 11e édition du Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale, rendez-vous sur le www.colèredupresent.com.